Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël, je suis accompagné de l'indéboulonnable, de l'indécrottable, de l'indémordable, de l'immortel, tonton Chris. Comment vas-tu Chris?
Salut Raphaël, yeah! Salut peuple de Catch Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu.
Merveilleux du show bleu, le dernier Friday Night SmackDown avant le WrestleMania, le moins WrestleMania de tous les temps, je pense qu'on peut l'appeler comme ça.
Je crois, ouais.
Un WrestleMania historique sur bien des aspects, même si c'est une partie de l'histoire dont on se serait bien passé. Et très probablement, comme nous venions d'en discuter en coulisses, très probablement le dernier weekly avant un bon moment à la WWE, donc... Et d'autant plus historique, il fallait une team historique. Nous sommes là, nous sommes chauds. Tonton Chris, un petit peu moins chaud que ces derniers jours quand même. La température, ça va?
Ah, la température a baissé. Là, c'est bon. Là, je commence à revenir à la normale.
Voilà, il est revenu d'entre les morts. Comment ça va? Est-ce que t'es de l'autre côté de l'enfer? Est-ce que t'as pu voir Kane ou l'Undertaker? Tu aurais fait un petit coucou?
Ouais, j'aurais aimé avoir une discussion avec eux, en particulier avec l'Undertaker. Ouais. mais bon, écoute. À la place, je discute avec mes poteaux de ketchup, avec mes sauces de ketchup, et c'est très bien comme ça.
Eh bah, ben, c'est parfait. Bon, ben, bah, écoute, Friday Night SmackDown du 3 avril 2020 au Performance Center en Floride, comme toujours.
Dans la empty Full Sail University.
Ouais, c'est stylé, hein.
Ah ouais, hein, t'as la classe, hein.
La classe. Eh bien, on commence. Allez, c'est parti. Hein. Pas le temps de refroidir. On commence par un segment Miss TV qui nous est annoncé, mais c'est la musique des Usos qui retentit. J'ai cru un instant que c'est Miz et Morrison qui allaient nous refaire le coup de l'imitation, mais non, c'est les vrais Usos qui arrivent. Ils nous parlent un petit peu de la situation. Bon, c'est le Friday Night Lockdown, comme ils disent. Ils se moquent un peu du Miss TV en le comparant à d'autres shows américains dont il faut avoir la référence. En tout cas, tout ce qu'ils disent, c'est que c'est eux qui vont gagner le ladder match ce week-end à WrestleMania et qui vont devenir nouveaux champions tag team. Ils sont interrompus par le New Day avec un Biggie qui nous fait un magnifique « Oh, people at home, don't you dare be sour !» Donc c'est Kofi Kingston et Big E qui arrivent et ils disent non, voilà, ils nous disent, c'est en gros, bah, c'est pas vous qui allez gagner, c'est nous qui allons gagner. Big E, il dit, c'est un peu des circonstances uniques, mais c'est toujours WrestleMania, still WrestleMania, voilà, on est convaincus, on essaye d'avoir la flamme, même si c'est une petite flamme d'une petite gazinière ou d'un petit briquet. Bon voilà, ça se clash un peu entre les deux équipes, ça devient le bordel. Du coup, Miz et Morrison arrivent. Miz, très très classe. Hein. Excusez-nous, désolé d'intervenir. C'est quand même pas comme si c'était mon show et notre talk show. Du coup, ils considèrent que c'est une preuve de l'irrespect dont ils font preuve. Hein. Ils sont les meilleurs champions depuis 10 ans, nous disent-ils. Ils ont gagné contre tout le monde à Elimination Chamber. Donc voilà, pourtant, ils sont pas respectés comme prévu. Donc en gros, ils leur disent continuez à vous disputer entre vous. Hein. Nous, on va passer au-dessus de ça. On va gagner. Et ils s'amusent à monter aux échelles qui sont sur les abords du Titantron, puisque voilà, ce sera un match aux échelles, un Triple Threat Tag Team Ladder Match à WrestleMania. Ça va leur causer bien du souci, puisque le New Day et les Usos, qui en ont un petit peu marre, s'accordent pour aller tabasser les deux champions. Sauf que dans le bordel, il y a un Uso qui met un kick à Kofi Kingston sans faire exprès, ce qui énerve Big E. Et au final, bah, c'est les champions qui en profitent, qui sont plus intelligents, ils donnent des bons coups d'échelle. Et finalement, le segment leur donne raison. Hein. Les autres se sont disputés, ils ont laissé la masse s'entretuer, et Miz et Morrison sont debout et paradent sur les échelles. Donc... Ben voilà, le segment, les champions sont-ils les plus forts? En tout cas, sur le papier, malgré ces circonstances étonnantes, on a une belle affiche là pour le tag team SmackDown, non?
Ah ouais, hein, dans des belles circonstances, ça aurait pu être un super méga match, quoi, avec une ambiance de feu, je pense.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Voilà, avec deux équipes qui se connaissent par cœur, en l'occurrence les New Day et les Usos, hein, qui se sont affrontés maintes et maintes fois. Et qui nous ont quand même offert globalement à chaque fois des bons matchs, qui ont toujours délivré la marchandise. Donc là, fatalement, avec l'ajout des champions actuels que sont Morrison et le Miz, Ouais. Dans l'absolu, ça aurait pu, dû nous donner un très grand match, un très grand ladder match, quoi. Donc écoute, voilà, ce segment, il était assez classique. C'était plutôt pas trop mal. C'était ouais, voilà. Quand il n'y a pas d'ambiance, on essaye de se raccrocher au ouais. peu qui nous reste. Et le peu qu'il nous reste, bah, c'est les interactions physiques entre les six, quoi. Et là, c'était marrant, le kick, le gros kick du Ouzo sur les New Day. Et puis après, derrière, bah, voilà, la mise et Morrison en bon fourbe qu'ils sont. Mm. Voilà, en profite pour attaquer et puis pour un peu prendre le dessus. Et puis voilà, quoi. Voilà comment lancer ce SmackDown.
Ouais, voilà, un opener qui aurait été pas dégueu dans des conditions normales. Bon, là, c'est vrai qu'on est dans une circonstance évidemment particulière, mais c'est dommage hein, pour Morrison, parce que moi je trouve que c'est un très très bon choix de l'avoir fait revenir. Ça paraissait évident, mais de reformer cette tag team, c'est plutôt sympa. Ça redonne un petit peu de, comment dire, un nouvel élan aux Miz aussi, une nouvelle voie dans sa carrière. Ouais, c'est intéressant. C'était une bonne prise, un bon choix, je trouve, de mettre tout ce monde-là dans cette division tag team. Bon, on verra bien hein, ce que ça peut donner. T'as raison, là, un ladder match, c'est clairement un spot fest où les mecs vont passer et tout ça. Et c'est vrai que sans les oh my god de la foule, c'est pas pareil. Après, est-ce qu'ils vont jouer comme ils l'ont fait ces derniers temps et comme ils vont le faire ce soir, avec le fait que c'est enregistré, pour nous caser des prises encore plus incroyables avec du montage et des cuts et tout ça? On va voir ce que ça donne. Alors, on est toujours dans l'incertitude. On a aucune idée de la tenue des deux cartes de ce samedi et ce dimanche. On verra un peu au fur et à mesure qui sera où. Ça va être une bonne question, ça aussi. Comment placer les matchs et où? Il y en a tellement pour faire un plateau un peu digeste et à peu près équilibré. On verra bien.
Ouais, l'organisation de la carte pose question. Et puis et aussi, moi, ce qui me pose question, c'est à quel point les matchs vont être retravaillés techniquement. Et tu vois, en termes de vidéo, je me demande, voilà, est-ce qu'en plus, par-dessus le marché de tout ce bordel-là, est-ce qu'en plus, on ne va pas avoir droit à des matchs complètement bouffés par le montage, quoi.
Bon, une chose est sûre, ils ne vont pas toucher les modifications sonores. Ça devrait aller. On ne devrait pas entendre des fausses huées ou des faux encouragements. Ou alors, c'est vraiment qu'ils n'ont pas tout compris.
Ouais, ça devrait pas être édité normalement.
Non. Bon, en tout cas, on a du catch un peu ce soir quand même, comme tous les soirs ils essayent. Un match qui, à mon avis, dans tous les cas, n'aurait pas déclenché beaucoup de bruit dans la foule. Un triple threat féminin avec un plateau royal. Naomi, Tamina et Lacey Evans s'affrontent avec Sasha Banks et Bayley au commentaire. Je sais, ça vous fait rêver. Nous avons ça ce soir à SmackDown. Bon, que dire, la qualité in-ring
Dream match,
voilà, il faut le voir, je vais pas vous décrire, il faut le voir. Ringside, s'il a pu regarder ce segment, devait être content, parce que c'est vrai que Sasha Banks est de plus en plus en beauté dans ses tenues, là, elle avait un beau bleu intégral.
Ah ouais, j'ai pensé à lui, là. Ah ouais, je reconnais que j'ai largement pensé au bon Ringside quand j'ai vu Sasha Banks débarquer, quoi.
Ouais, Sasha Banks, qualitative. Alors, bon, micro, commentaire, moi je trouve pas très intéressante. Toujours, puis Michael Cole, bon, toujours un peu les mêmes questions. Qui c'est la chef? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que les autres en vous deux? Oh, Sasha Banks, vous aviez l'air contente d'être intégrée dans le Fatal Five Way. Est-ce que vous allez trahir votre ami? Bon, bref. Sasha Banks finit par se lever, alors que dehors, sur le match, un petit peu baston hors ring. Elle essaye d'attaquer, enfin, elle attaque Lacey Evans. Mais elle se fait prendre un gros kick par Naomi. Naomi qui remonte sur le ring, qui se retrouve en face à face contre Tamina. Les deux jeunes femmes s'affrontent. Alors, il y a Naomi domine d'abord, puis Tamina reprend un petit peu le dessus avec un Samoan Drop. Finalement, Bayley, elle aussi, décide d'intervenir. Elle fait un coup de la guillotine à Naomi, ce qui permet à Tamina de placer un kick et de gagner cette affiche. Donc, le triple threat est gagné par Tamina. Bayley monte sur le ring, elle flatte Tamina en lui disant « Bravo, tu es la meilleure, on est très fiers que tu sois dans le Fatal Five Way ». Elle lui serre la main, sauf que Tamina lui met un kick. Et quand Sasha Banks remonte sur le ring pour essayer aussi de calmer le tout en t'entends vaguement l'instant nostalgie de la glorieuse team. C'était quoi ça, Team Bad, c'est ça?
La ouais. Team Bad, ouais.
La Team Bad qui nous manque à tous, évidemment. Bah, elle se prend un Samoan Drop, donc Tamina, voilà. Michael Cole pose la question, est-ce que c'est pas Tamina la favorite de la rencontre de ce week-end? Je te pose la question, Chris.
Wow! Bah écoute...
Ça va un peu vite en besogne, peut-être.
L'arrivée de Tamina, déjà, m'a fait rire, parce que l'incrustation, tu sais, qui présente les catcheurs ouais. sur le côté de l'écran... rappelle voilà, les hauts faits d'armes du catcheur en général. Et le haut fait d'armes de Tamina, c'est être former 24-7 champion.
Yeah.
Et donc, du coup, derrière, on a distribution de super kick de Tamina et Samoan Drop pour terminer sur Sacha, qui, pour le coup, n'a pas du tout dû plaire à ringside. Et... a présenté une powerhouse féminine très très forte. Je pense que Tamina, ça faisait des mois voire des années qu'on ne l'avait pas présentée aussi forte avant un match, hein. et globalement le match était court, assez mauvais et, ouais. Et vraiment franchement sans intérêt. Et comme tu l'as dit, les commentaires en plus ont été assez relous, parce que vraiment Cole ne nous a parlé que d'une seule et même chose pendant tous les commentaires. Et c'était pas folichon, cette histoire. Hein. Donc écoute, voilà, donc ce Fatal Five Way là, comme on l'a dit, dream match ou pas.
Ouais. A priori, hein, on se posait la question, j'ai pas revérifié parce que j'essaie de pas me spoiler ces temps-ci, mais c'est un Fatal Five Way classique, hein, on n'a pas d'élimination.
Non, apparemment, ouais, il n'y a pas de stipulation annoncée spécifiquement sur ce Fatal Five. Ouais, hein. Donc, en tout cas, moi, je n'ai vu strictement rien concernant ça, quoi.
Moi, en tout cas, dans ce court match, comme tu l'as dit, j'ai vu quand même quelques approximations, hein, entre les femmes. Donc, je ne suis pas très optimiste. On verra bien ce que ça donnera. Ce ne sera pas forcément beaucoup plus long que ça, je pense.
Ouais, moi aussi, c'est un peu la sensation que j'ai. Hein. J'ai un peu l'impression que ça va être un match assez court. Vu la qualité, vu le line-up, hein, de toute façon, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de qui nous fasse rêver plus que ça. Est-ce que entre Dream Match et Nightmare Match, on sera peut-être à la frontière entre les deux.
Bon, on verra bien, c'est sûr. Parlons de Dream Match, ben, on enchaîne. Hein. On sort le coffre à catch. Alors là, on a un vrai coffre à catch, hein, cette semaine. On a un vrai match vieux, parce que bon, c'est sympa de nous faire passer le main event du WrestleMania d'il y a un an. Là, on a quand même Ric Flair contre Shawn Michaels, WrestleMania 24, 2008, donc il y a 12 ans maintenant. J'imagine que tu l'as regardé en entier, ce segment. Voilà, moi, c'est le premier que je regarde en entier aussi, parce que quand même... Puis en plus, t'es avec Ric Flair, non? À la maison de retraite, il était à côté, non?
ouais, il est sous le ventilateur. Hein.
Ah, mince.
Mais il était là, et il était quand même, je pense, particulièrement ravi qu'on lui fasse honneur dans ce dernier SmackDown avant la fin du monde. Hein.
Ouais, c'est vrai. Bon, ben voilà... oui, match de légende, on peut dire. De toute façon, je vais pas le reviewer, ça sert à rien, mais ça fait partie des classiques du catch. C'est vrai que c'est assez drôle de voir avec le recul tous les WrestleMania hyper émotionnels qu'a eu Shawn Michaels après, quoi. Parce qu'il y a eu ça, après c'était l'Undertaker, après il arbitre le match de l'Undertaker et Triple H, donc on l'a souvent vu pleurer à WrestleMania ces dernières années, HBK, mais bon, voilà. On a un petit review de 2008, mais nous sommes en 2020, et Michael Cole nous tient au courant des dernières nouvelles. Alors, la semaine passée, ou alors c'était il y a 2 semaines, je ne sais plus trop, Elias est tombé du haut des gradins à cause de Corbin. Bon, excellente nouvelle, tonton Chris, on est soulagé, il sera là pour le match, il va pouvoir combattre.
Il va pouvoir combattre.
Pouvoir combattre. Par contre, on nous glisse au passage, pour le Universal Title, Goldberg finalement affrontera Braun Strowman. Et ça nous sort comme ça. Entre deux trucs, on nous rappelle même pas. Enfin, on nous dit même pas que ça aurait dû être Roman Reigns ou quoi que ce soit. D'autant plus que Strowman, voilà, je crois qu'on l'a pas vu une seule fois depuis qu'on est en en Performance Center. Il a complètement disparu depuis qu'il a perdu son titre intercontinental.
Ouais.
Je sais qu'il y a des déçus, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le milieu catchesque sur la façon dont on nous annonce cette affiche. J'imagine que toi aussi, tu es surpris, déçu.
Ah bah c'est surtout que non seulement que c'est out of nowhere, mais je veux dire, la WWE ne s'est même pas fendue d'une explication, quoi.
Oui.
Donc tu vois, il n'y a même pas eu voilà, c'est-à-dire que bon, à la base, Braun Strowman, la dernière fois qu'on l'avait quitté, il était dans tout ce qui concernait les segments autour du titre intercontinental. Et là, tout d'un coup, blam, il est débarqué sur le titre suprême face à Goldberg. Même Cole a même pas expliqué quelque chose aux commentaires. C'est quand même fou, quoi.
Ouais.
Donc, comme tu as été vite, du coup, je voulais juste revenir un tout petit chouille sur le coffre à catch qui nous a été proposé.
Oui,
parce qu'il ne faut pas oublier la jeunesse quand même qui nous écoute et qui peut-être qu'il y a 12 ans n'était pas au fait de ce qui se passait. Et c'était donc le Farewell match de Ric Flair à WrestleMania 2008. Mm. Et qui donc, après une feud intense avec Shawn Michaels, le Heartbreak Kid, l'affrontait. Et ça avait été un match, moi, que j'avais trouvé d'une grande intensité émotionnelle, où le public était hyper investi. Ça me fait tellement plaisir de voir un public investi en ce moment. Donc, et avec cette fameuse fin qui est rentrée dans la légende de WrestleMania, hein, avec le « I'm sorry, I love you ».
Bien sûr.
Et un truc incroyable, c'est que quand même, pendant ce match, Shawn Michaels, qui était donc le heel de service, à chaque fois qu'il lance un switch in music, toute la foule compte avec lui quand il tape sur le tapis du ring.
Ouais.
Et ça, c'était incroyable parce que voilà, avoir un heel comme ça qui en même temps arrive à faire autant remuer les tripes de la foule, c'était énorme. Et ce truc là de Ric Flair qui à la fin du combat descend ringside et va embrasser son fils, sa fille, sa copine du moment, enfin sa 17e femme, tout ce moment là, moi j'ai trouvé que c'était un moment emotional.
Ah,
moi ça m'a fait plaisir de revoir ce match là. Donc voilà, je ferme la parenthèse et je reviens sur Braun Strowman. Écoute, moi j'aimerais bien en fait que tu me donnes ton avis là-dessus parce que moi, j'aimerais essayer de comprendre pourquoi c'est Braun Strowman qui a été choisi sur ce match. Pourquoi ?
Eh ben, écoute, moi, je vais tourner mon analyse un peu différemment. En fait, juste avant de visionner ce SmackDown, je me faisais un peu la liste dans la tête, là, des affiches et tout. Et je me disais, tiens, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe? Alors moi je regarde très très peu les sites de news, de rumeurs et tout, parce que comme beaucoup de gens, j'ai pas mal peur du spoil, surtout en cette période WrestleMania.
Ouais.
Donc j'avais pas envie d'apprendre un retour surprise ou un truc, mais je me disais quand même, est-ce qu'il est blessé Strowman? Parce que depuis qu'il a perdu contre Sami Zayn, à part le petit segment rigolo où il disait wash your hands, il y avait rien.
Rien.
Alors, en fait, j'ai envie de dire pourquoi Braun Strowman. La raison à laquelle je vois, c'est que c'est. Ben, Roman Reigns étant out, on va dire, c'est le seul catcheur disponible dont l'aura, la force physique, tout le background peut être d'un Goldberg level. Mais je me dis, en fait, ma question, qu'on ne saura sûrement jamais, c'est qu'est-ce qui aurait été prévu pour Strowman en temps normal ? Heureusement qu'il était là, dispo, avec aucune feud, aucune rivalité, aucun programme pour qu'on le casse comme ça à la dernière minute, parce que qu'aurait fait Strowman sans ça? C'est bizarre, en fait, de l'avoir... parce que là, la défection de Roman Reigns, ça fait une semaine qu'on le sait, mais la Road to WrestleMania, ça fait un mois qu'elle est en cours, donc moi je suis en fait plus surpris de ça qu'il avait absolument rien de prévu. Alors peut-être qu'il devait être dans la André the Giant Battle Royale ou je ne sais quoi, mais on peut faire le tour de la question différemment, hein. Qui à part Braun Strowman, c'est ça qui est un peu difficile à évaluer aussi.
Moi la seule explication, si tu veux, c'est que je pense qu'ils ont choisi Strowman parce que finalement ce match Goldberg-Roman Reigns, ils ont voulu garder le principe d'un match de Golgoth, quoi.
Ouais, oui,
ils se sont dit que le seul qui était susceptible de pouvoir remplacer Roman Reigns dans ce match de super heavyweight, c'était Strowman. On n'allait pas mettre Tucker, hein. Donc, je pense que c'est ça qui a finalement conduit la WWE à, à mettre Strowman dans l'équation. Moi, je ne vois pas d'autre explication.
Bah, il faut quand même quelqu'un qui soit du prestige d'une affiche universelle. Et c'est vrai que bah, Strowman a un très petit palmarès, mais une belle carrière. Hein. Il en a eu des matchs contre Lesnar, contre Roman Reigns. Ouais, moi, je vois, comme tu dis, il n'y aurait pas eu grand monde avec la même aura. Enfin, effectivement, on n'allait pas mettre ni Bobby Roode, ni Tucker. Et puis, bon, comme on sait que Goldberg, en général, bah, il fait des matchs vite. Hein, il veut,
ouais. Voilà,
ça dure pas très longtemps. Ça limite aussi, quoi. Qui on aurait pu mettre, bon, Samoa Joe, je crois qu'il est toujours out ou un truc comme ça. Mais,
ouais, on l'a blessé.
Mais,
ouais.
Voilà, mais il n'y a pas grand monde, à moins de refaire chausser les bottes à Kane ou Triple H ou des gens comme ça, mais sinon... Oui, c'est un choix qui s'impose un peu de lui-même, en fait. Mais je sais pas du tout ce qui... Enfin, ça fait bizarre pour Braun Strowman de se retrouver propulsé là, alors qu'il avait absolument aucun segment depuis plus d'un mois, quand même.
Oui, et qu'il avait pas été mis, en plus, dans la picture du titre suprême depuis un sacré bail, quoi. Donc là, tout d'un coup, il se retrouve avec un title shot pour le titre suprême de SmackDown. Vraiment.
Ouais.
Out of nowhere, cher à Randy Orton.
Ouais, tu poses une bonne question. Je pense que la dernière fois, c'était quand il avait ce Money in the Bank de sinistre mémoire, dont il a absolument rien fait, là.
Ouais.
Quand il a cash-in sur Roman Reigns, quand il y avait le reformation du Shield, oh là là, c'était pas très bon tout ça.
Et son dernier title shot datait de Brock Lesnar. Et comme Brock ouais. Lesnar ne voulait absolument pas travailler avec lui, ça avait été vite expédié, ça.
Ouais. Bien, ben voilà, hein, une affiche qui change, dernière minute, ça arrive. Je me demande trop un peu comment ils vont s'en sortir, mais voilà, on a une affiche pour Universal Title et c'est pas une surprise. Alors est-ce qu'ils auraient pas mieux fait finalement de nous scénariser une surprise, quoi, le jour J, Goldberg qui arrive, qui attend, et puis voilà, un adversaire surprise qui débarque, je sais pas. Bon, de toute façon, l'effet de surprise quand il n'y a pas de foule, c'est sûr que c'est pas terrible non plus, mais bon.
Ouais, c'est un peu compliqué.
Mais est-ce que ça aurait pas. Parce qu'ils ont très envie quand même que le public regarde, c'est WrestleMania hors du commun. Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait de faire un communiqué en disant Roman Reigns est out, adversaire surprise, quoi. Ça aurait peut-être titillé un peu plus la curiosité.
Bah ouais, ça aurait donné peut-être un petit attrait supplémentaire, si tu veux, dans l'attente du match, quoi. C'est-à-dire que bah, Goldberg serait rentré, puis tout le monde se serait dit « Ah, qui va arriver ?» Et c'est pour le coup, moi, je pense que c'est très mal joué de la part de la WWE d'avoir fait ça.
Ouais.
Surtout sans aucune explication concrète.
En
donc,
plus,
je ouais. donne un mauvais point à ce booking-là parce que vraiment, je trouve que c'est très très mal ficelé.
Oui, et puis dans l'hypothèse assez probable, on va dire, que Goldberg perde son titre, enfin, je ne sais pas du coup ce que ça va donner ce soir-là avec ce changement. L'effet de surprise aurait pu légitimer, enfin, aurait pu être scénarisé, quoi. Bon,
oui.
Ouais, voilà. On ne sait pas. Enfin bref, on ne sait pas. Et on verra, mais en tout cas maintenant on sait qui remplace Roman Reigns. Voilà, c'est son rival de toujours, hein, finalement. Il y a une continuité aussi. Roman Reigns a été une grosse feud pendant ouais. des mois, donc et c'est toujours mieux que Baron Corbin.
Ah bah ouais, non voilà, ça aurait été,
ça
aurait été horrible, quoi, horrible, totalement horrible. Ah ouais, non, j'aurais pas pu, j'aurais mis mon masque chirurgical, hein, je pense, sur les yeux et pas sur le nez.
Ah oui, je pense aussi. Bon, dans les histoires horribles, nous partons sur quand même
oh là
le
là
gros,
là
très 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 gros segment de ce Friday Night SmackDown, le point culminant, j'ai pas peur des mots. Heavy Machinery est en coulisses. Mandy Rose avait croisé Tucker un peu plus tôt en lui demandant comment allait Otis. Donc Tucker il transmet, hein, c'est un bon ami, il dit voilà, Mandy elle m'a demandé tes nouvelles, mais bon, faut pas non plus que tu te fasses des illusions, c'est plus par gentillesse, je pense. Tucker, il a un match prévu contre Dolph Ziggler là ce soir même, alors qu'à WrestleMania c'est Otis qui aura un match contre le blondinet. Mais Otis, il reçoit un SMS de Mandy Rose a priori, donc il dit bah je dois y aller, je peux pas assister au match. Enfin, et là encore, je le dis d'une manière plus humaine que ce que Otis baragouine. En tout cas, on a un match Tucker contre Dolph Ziggler. Première fois, je crois, qu'on voit Tucker
ouais.
tout seul.
Ouais, je crois bien. Hein. Je crois bien. Ouais.
Voilà, un grand gaillard. Alors c'est vrai que tout il m'a fait un peu penser à comment il s'appelait Big Cass là, de Sinistre Mémoire. Mais voilà, il est grand, il a des grandes jambes, il a envoyé des grands kicks dans la gueule de Dolph Ziggler qui continue depuis 15 ans à faire du selling comme il sait faire. À un moment donné, il lui fait une espèce de grosse souplex là à Dolph Ziggler qui roule à l'extérieur du ring. Donc on part dehors, Tucker utilise la table, utilise les barricades, il envoie même Dolph Ziggler dans les escaliers. Voilà, on essaye de nous faire croire que Tucker est très très énervé de tout ce qui s'est passé. Il veut faire payer Dolph Ziggler. Moi, je trouve que niveau acting dans son visage ou autre, il n'a pas l'air spécialement énervé, hein. Il déroule un petit peu ses prises, mais bon, il fait son job. Tucker tombe tente un tombé pardon, au milieu du ring, mais Dolph Ziggler a le pied sur la corde, il casse le tombé. On repart à l'extérieur, mais Dolph Ziggler triche, il triche le fourbe. Il met ses doigts dans les yeux de Tucker qui n'y voit plus rien. Puis il lui fait un monumental zigzag sur les escaliers, sur la rampe d'escalier qui a été désolidarisée par Tucker, donc sur la partie des grandes marches. Ça, l'arbitre, il n'aime pas. Il déclenche une disqualification. Il ne l'a pas fait
Ouais.
d'ailleurs quand Ziggler a mis les doigts dans les yeux, ce qui m'a un peu surpris. Donc, disqualification. Dolph Ziggler a pris le dessus maintenant. Et le vétéran domine le petit jeune. Il prend l'escalier dans les mains. Il veut visiblement faire mal à Tucker. Mais Mandy Rose et Sonya Deville arrivent. Non, non, Dolph, ne fais pas ça. T'as pas besoin de faire ça. Otis se précipite aussi pour venir en aide à son ami pour voir comment va Tucker. Sauf que là, il y a un truc qui apparaît, un truc que j'avais remarqué ça ces dernières semaines, mais j'ai toujours oublié d'en parler dans les reviews ou quoi. Une espèce de petit cercle, de petit rond avec des petits points là, comme quand on charge une vidéo ou autre, qui arrive au milieu de l'écran. Et tout d'un coup, comme si quelqu'un était en train de hacker le système, on voit marqué Truth will be heard, donc la vérité va être entendue. Et on voit un personnage qui est devant des écrans, cagoulé, de dos. On dirait un petit peu le méchant de l'inspecteur Gadget, le Dr. Mad. Certains ont la référence. Voilà, vous avez la même jeunesse que moi. Et cette personne, avec une voix de robot, nous dit, bah, voilà, la vérité est partie. On voit sa main appuyée sur le bouton. C'est une main blanche. Donc, la vérité, truth, c'est pas hard truth. Moi, j'ai un peu déçu que ça soit pas ça. C'est presque une main. Il faudrait la revoir au ralenti. J'ai l'impression que c'était une main féminine, moi, mais on ne sait pas. Bref, tout d'un coup apparaissent des vidéos de caméras, de vidéosurveillance qui ont été enregistrées, où l'on découvre que Mandy Rose, elle dit à Sonya Deville qu'elle aimait bien Otis, qu'elle le trouvait mignon, un peu bizarre, mais quand même gentil. Et en fait, c'est Sonya Deville, la méchante, la fourbe, on s'y attendait pas, qui vient effacer certains commentaires sur le téléphone de Mandy Rose, qui envoie des messages à Otis. Bref, on ne comprend pas trop ce qu'elle fout, mais en tout cas, un peu plus tard, on la voit avec Dolph Ziggler, ils discutent, et ils sont en train de manigancer. Sonya disant notamment, voilà, c'est dans ton intérêt, c'est dans mon intérêt, on est gagnants tous les deux. On comprendra. Enfin, moi perso, j'ai pas trop compris exactement qu'est-ce qu'ils avaient tous les deux à gagner. Bon, pour faire du mal à Otis et pour que Ziggler puisse pécho Mandy, j'imagine. En tout cas, voilà, la vérité a éclaté. Mandy Rose est dégoûtée, elle quitte le ring, elle s'en va. Sonya Deville est en larmes, elle dit, mais je voulais pas te faire de mal, comprends-moi, écoute-moi. Et Dolph Ziggler, lui, essaye de s'enfuir. Bon, il se fait un peu rattraper par Otis, mais. Oh là là, quelle
Oh,
tension, quel mélodrame, Chris. Est-ce que ton cœur a tenu le coup?
quel calvaire. Oh là là, mais comment je m'en fous, quoi. Mais alors, mais comment ça ne m'intéresse pas? Comment je suis. Alors, tu vois, en regardant ce segment, je pensais à un forumer des cahiers du catch qui s'appelle Cypher. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, je te fais un big up, Cypher. Et qui était, comme moi, un grand fan du Dolphin. Et
Hey.
je pense à quel point il doit être triste de voir le Grand Slam champion qu'est notre ami Dolph Ziggler lancé dans cette rivalité qui, pour moi, est d'une catastrophe. Mais je déteste. Ah, mais je le dis clairement dans les commentaires. Si vous n'êtes pas content, signalez-vous et dites-moi pourquoi vous adorez cette rivalité. Mais moi, je déteste. Voilà quoi. C'est pour moi, c'est de la merde en barre. Voilà quoi. Et il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a aucune interaction que je trouve excitante ou je ne sais quoi. Ça m'apparaît comme un espèce, c'est d'un ennui Tu as signalé l'acting de Tucker qui est vraiment très faible. C'est une lapalissade de le dire. Vraiment, moi, je suis. Mais alors, vraiment, je suis en mode. Mais je m'en fous. Et je suis en mode. Mais sortez Ziggler de là, quoi. Vraiment, le pauvre, quoi. Enfin, vraiment, je. Voilà. Bon, écoute, le seul intérêt pour Ziggler, c'est que peut-être qu'il va, il va brancher Mandy. Je lui souhaite que ça se termine comme ça pour lui, définitivement. Mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et pour juste revenir maintenant sur le seul truc qui m'a intéressé dans ce segment, puisqu'il y a quand même un truc qui m'a intéressé dans ce segment, c'est la séquence vidéo avec le hacker Anonymous.
Eh ben oui, c'est voilà, qui ça ?
Ça m'intéresse. Voilà, tu vois. Alors, ça m'aurait intéressé que ce hacker soit balancé peut-être dans d'autres circonstances et dans une autre feud, mais finalement pour le lancer définitivement, et ben je trouve que ça c'est plutôt intéressant. J'ai bien aimé le petit package avec les ordi devant lui, que d'abord il soit de dos. Ma seule inquiétude en fait, ça a été qu'il crame direct qui c'était quand il s'est retourné. Ouais. Je me suis dit ah quand même, il le crame pas, il le garde dans l'anonymat, donc c'est bien. Et alors moi j'aurais plusieurs idées, mais il y a beaucoup de trucs qui tournent, comme quoi ça serait Ali, parce que les fameux points bleus qui tournent là en mode téléchargement ressembleraient plus ou moins à son masque et à une icône qui apparaît sur son petit entron quand il rentre dans le stade. Tu dis aussi effectivement que ça pourrait ressembler à une main féminine, et je trouve que c'est pas faux non plus. Parce qu'en plus, comme il crame pour sa première apparition, c'est les filles qui crament, c'est les filles qui sont impliquées dans le segment.
Ouais.
Donc effectivement, pourquoi une femme ne serait pas le hacker Anonymous, pourquoi pas. Mais du coup, ça m'intéresse, et effectivement, j'espère qu'ils vont un peu développer ce personnage qui va hacker plusieurs rivalités dans le futur, qu'on va pas le voir se découvrir trop vite. Et qu'effectivement, il va balancer du dirt sheet comme ça à l'avenir. Ça a été finalement le point positif pour moi de ce segment que j'ai trouvé, sinon totalement catastrophique.
Eh ben, je te rejoins. En fait, pour moi, ça a un peu. C'était une feud qui était inintéressante. Ça, c'est clair et net. Ça, pour moi, ça lui fait prendre une légère autre dimension, dans le sens où ça peut nous faire apparaître un nouveau personnage. Moi, j'ai plutôt envie que ça soit un nouveau personnage. Alors, les circonstances sont bizarres, mais n'oublions pas que, en général, post-WrestleMania, c'est toujours le moment pour lancer aussi des catcheurs de NXT ou d'ailleurs. Donc, moi, je voyais plutôt quelqu'un de nouveau. Je n'ai pas pensé à Ali ou autre. Et puis, je suis comme toi, j'aimerais bien que cette gimmick de hacker anonyme qui nous donne un peu les secrets de certaines intrigues reste un peu plus longtemps et pas juste pour cette feud, parce que ça serait un petit peu con. Après, à voir ce qu'ils lui font faire et qui se cache derrière. Disons que le côté hacker qui possède un ordinateur et tout légitime un peu plus ces segments de vidéosurveillance que quand c'était là les horribles moments où on voyait Alexa Bliss qui bitchait Nia Jax ou autre en nous disant « Oh, on a laissé les caméras aller ». Là, au moins, il y a une logique, il y a une légitimité, quoi.
Ouais, et puis c'est dans l'air du temps. Ça reprend voilà un petit peu tout ce truc autour des Anonymous, je trouve. Moi, ça a tendance à m'intéresser. Je trouve que c'était pas mal foutu, que l'idée est pas mauvaise et que c'est juste dommage que ça soit dans le cadre de l'exploitation d'une feud avec Otis et Ziggler et Mandy Rose, quoi.
Ouais. Bah écoute, on verra bien. En tout cas, ça nous fait un match de WrestleMania auquel on ne s'attendait pas. On verra bien. Bon, après, le Dolph, moi je suis un grand fan de Dolph Ziggler. Je tiens toujours quand même par justice à rappeler que ce soit de l'époque de Vicky Guerrero, de AJ Lee ou de Lana, il a quand même en 10 ans de carrière, il est un peu habitué au segment Amour, Gloire et Beauté. Parce que,
ouais, c'est vrai. Mais en général, il était dans des. Il dit amour, gloire et beauté, mais où il y avait des finalités avec une ceinture, grâce à Biggie, grâce à différents personnages comme ça qui ont traversé sa carrière, ouais. Il a glané des ceintures Et mille de rien, le Dolph, il est Grand Slam champion, quoi.
Ah bah oui, c'est
et,
sûr.
Voilà, ce type, il a quand même une sacrée grosse carrière. Et pour moi, le Dolphin sera un Hall of Famer à la fin de sa carrière.
Oui, ah, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr que là, il est dans le bas du panier, on va dire. Et dans
ah
le,
ouais, là,
bah, là c'est est... de la low card.
Ah bah ouais, là, on est complètement dans la low card.
Bon, ben on va monter un petit peu. On va passer à la mid card.
Un petit peu, ouais.
Un petit peu la mid card, le titre intercontinental. Donc, Daniel Bryan, ce soir, accompagné de Drew Gulak, affronte Shinsuke Nakamura. Comme toutes les semaines, Sami Zayn est au commentaire. Il a sa place attitrée désormais, limite. Il se débrouille bien, hein, Sami Zayn au commentaire. Sur le ring, on a là, pour le coup, on a un dream match. Hein, c'est Daniel Bryan versus Nakamura. C'est quand même de la grosse affiche. Bon, évidemment, les conditions sont un peu différentes. Donc, on n'aura pas un dream match en soi. Dominé d'abord par Daniel Bryan, qui va placer un petit peu ses prises fétiches. Puis, à un moment donné, il met Nakamura sur le turnbuckle. Pardon, il essaye une espèce de Hurricane Rana, mais ça rate. Nakamura prend le dessus en mettant, en utilisant ses genoux, ses kicks. Il y a un échange de yes kick aussi. D'abord, c'est Daniel Bryan qui les place à Nakamura qui est assis par terre sur les genoux. Et puis après, Nakamura les contre et les donne dans ce sens-là. Bryan réussit à coincer son adversaire dans un yes lock. Et là, Cesaro intervient. Le Suisse qui était là aussi attaque Daniel Bryan. Donc, disqualification. On part à l'extérieur du ring. Drew Gulak se jette sur Cesaro, il se bastonne. Le Suisse envoie Gulak de l'autre côté des barricades. Il attrape en plein vol Bryan qui faisait un suicide dive. Il le fait traverser la table. Il fait passer Gulak à travers l'escalier. On a un énorme Cesaro là en 2-3 moves. Et ben voilà, ça finit sur une nette domination des artistes, comme ils s'appellent, des méchants, puisque Gulak étant neutralisé, Daniel Bryan au milieu du ring va se prendre un neutralizer, un Kinshasa et le Aluva Kick de Sami Zayn qui a daigné quand même un petit peu utiliser ses talents catchesques. Donc comme on dit, si on est sur un go-home show normal, booking inversé, booking tout court, Sami Zayn se dit intouchable. Est-ce que t'as bien aimé ce passage? Alors le match en lui-même, bon, pas très long, mais
ouais, mais
intense.
Ouais, assez intense et sans aucun doute le meilleur match de la soirée. Voilà. Effectivement, ton hypothèse du booking inversé est pas mal sur ce coup-là. Et voilà, je... Tu vois, ça faisait partie des matchs Bryan versus Zayn, j'aurais été mais grave hypé, quoi.
Vraiment, ah ben
ça aurait
oui.
été un match mais qui m'aurait mais super hypé. Je pense qu'on en aurait fait des tartines à catch-up dans le cadre de review classique avec un public, etc., etc. Je pense que vraiment on aurait mais kiffé notre mère de parler de cet affront, de cette confrontation pour le titre intercontinental. Je suis d'autant plus content en plus de voir Bryan et Zayn dans la title picture du titre intercontinental. Donc donc effectivement, ouais, ça aurait été un match qui m'aurait mais tellement emballé dans d'autres circonstances. Alors que là, bah, ça fait un peu plouf, pchit, plof, tu vois. Et voilà, donc finalement les interventions, le gros triple combo qu'on a eu quand même sur Bryan là, avec enchaînement quand même,
ouais.
Il se prend trois finishers consécutifs, quoi. Neutralizer, Kinshasa et Eluva Kick, quoi. C'était quand même, c'était violent, hein. C'était très violent, quoi. Et j'adore le t-shirt de Cesaro, quoi. Mais putain, mais
j'ai envie de l'acheter.
Ah mais moi putain, mais je kiffe son t-shirt là, le wrestling puriste là, je le trouve, mais j'adore ce t-shirt, quoi. C'est vraiment c'est pour moi là de ces dernières semaines, c'est un des plus beaux t-shirts qu'on ait vu à la WWE, quoi. Et voilà, donc du coup interaction assez sympa. Le seul truc que j'ai trouvé un peu bizarre, ça a été le tout début, c'est-à-dire que quand Gulak et Bryan ont fait un espèce de saut de mouton là sur le ring avant de commencer là, c'était entre le mi rigolo et un peu le mi pathétique, tu vois. Et voilà. Donc voilà, je confirme voilà que effectivement c'était un match qui à la base aurait pu mettre votre tonton Chris dans tous ses états. Voilà, ça sera pas vraiment le cas. Il faut bien que je le reconnaisse.
Là, les États sont durs en ce moment, mais bon, on peut pas leur reprocher, en tout cas, sur ces dernières semaines, d'avoir tout fait pour construire à peu près normalement une Fed qui implique en plus pas mal de monde de qualité. Moi, j'aime bien Sami Zayn en champion intercontinental dans cette gimmick-là. Enfin, je trouve que c'est une révélation. Là, le heel qu'il est assez parfait, mais j'ai bien envie de voir Bryan gagner pour que ensuite les autres viennent se frotter à lui. Là, Nakamura et puis Cesaro un peu derrière. J'aimerais bien voir ces gens-là contre Bryan dans un titre intercontinental en jeu. Mais on verra bien tout cela un peu plus tard dans les semaines à venir, ou les mois à venir en tout cas, à la WWE. Parce que bon, c'était quand même une Road to WrestleMania très très particulière. Et ça va donner un WrestleMania très très particulier. Et ce sont les mots de John Cena qui va nous emmener dans le main event, dans le dernier segment de ce dernier show. Il reprend un petit peu les tournures de Paul Heyman à Raw. Voilà, il en profite, John Cena. Alors ça, c'est assez finement fait, je trouve, de la part de la WWE. Il en profite pour avouer que, ben, avec ce show... dans le Performance Center, depuis un mois, on navigue un petit peu à vue. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses un peu moins bonnes. Donc, il remercie tout le monde, le public et tout le monde, tout le WWE Universe d'avoir traversé. Il continue cette métaphore, la métaphore des bateaux pirates qui était un peu la gimmick de WrestleMania cette année. Voilà, on a tous traversé, on a tous navigué dans ce mois un peu bizarre sans trop savoir où aller. Donc, voilà, moi j'ai trouvé ça pas mal joué de nous rappeler, voilà, d'essayer de titiller un peu notre côté, on va dire notre côté solidaire envers la WWE, notre compassion. Voilà, tout le monde se demande ce qui va se passer, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais du coup, il prédit quand même, Cena, que ça va être très regardé, parce que tout le monde va regarder en se demandant « mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ?» Et il dit, bah, par exemple, moi, voilà, en challenge pour un Firefly Funhouse match, j'ai demandé autour de moi, personne ne sait ce que c'est. Bray Wyatt, sûrement, il ne sait même pas ce que c'est non plus, mais justement, The Fiend, il aime ça, et il aime qu'on ne sache pas, parce que ne pas savoir, c'est la peur, c'est la panique. Et The Fiend, voilà, il se nourrit de ça, il gagne sur notre panique. Mais lui, John Cena, il a pas peur. Il dit, moi, j'ai pas peur du Fiend. Il retombe un peu dans ses vieux travers en se moquant du costume du Fiend. Alors, j'ai fait des références que j'ai pas trop compris, mais de personnages, je sais pas, de la culture, je sais plus qui l'a cité, mais bref. Donc, voilà, il dit, Goldberg a montré que le Fiend avait des faiblesses. Moi, je vais l'embarrassment, donc je vais l'humilier carrément. Donc, John Cena... il accepte le Firefly Funhouse match. J'accepte votre challenge. Et là, oh yeah, nous avons Rambling Rabbit au bord du ring. Nous avons le petit cochon, le petit ski. Nous avons tout le monde, hein, la sorcière Abigail, le vautour, là, merde, comment on appelle ça, le busard. Et ils sont tous en train de dire autour de John Cena, ouais, John Cena, tu vas être avec nous pour toujours, forever, forever, forever. Et puis tout d'un coup, les lumières s'éteignent, elles se rallument, The Fiend. Et au niveau de la caméra, il est dans les, au niveau des gradins, là, d'où est tombé Elias, d'ailleurs, il y a 2 semaines. The Fiend est là, John Cena le regarde, puis les lumières se rééteignent, et tout d'un coup, elles se rallument, et Bray Wyatt, le Bray Wyatt classique, celui du Firefly Funhouse, avec son pull rouge, est juste derrière John Cena, il lui dit « Let me in ». John Cena sursaute, les lumières se rééteignent, elles se rallument, et John Cena est tout seul sur le ring. Et c'est ainsi qu'on finit le dernier SmackDown avant le WrestleMania de la fin du monde. Le dernier SmackDown de la pandémie, le dernier weekly pour un bon moment, je pense. Est-ce que c'est pas finalement tout un symbole de ce que la WWE, et j'ai envie de dire même la planète entière, traverse ces derniers mois, l'incertitude, un espèce de menace qui arrive invisible, masquée, sans trop savoir. Est-ce que The Fiend n'est pas le coronavirus, tonton Chris?
Ah, merci mon bon Raphaël hier. Ah, voilà un truc qui me donne le sourire. Qui sait? Peut-être que le Fiend a été faire un tour en Chine. Bah, et le gros salopard derrière toute cette affaire de Covid-19.
Ça colle presque, hein. Il est apparu fin de 2019, là on y est. Hein.
Ah ouais. En tout cas, si c'est le cas, je le remercie pas, le film, parce qu'il m'aura refilé sa ch'touille, quoi.
Ah oui, ça.
Donc, vraiment, je suis pas content après le film. Hein. Pas content. Par contre, bah, j'ai envie de dire un peu ce que j'avais dit la dernière fois où Johnny Boy était apparu. Hein, bah, Johnny Boy au micro, hein, ça reste hein, le patron, quoi. Hein, ça reste le boss. Hein. Et je pense que c'est peut-être un des seuls catcheurs, si ce n'est le seul du roster, qui peut se permettre de dire que bah, à la WWE ces dernières semaines, il s'est passé des bonnes choses comme de moins bonnes. Tu vois.
Ouais.
Je vois pas quel autre catcher peut se permettre ce genre de phrase en promo dans un weekly de la WWE, très franchement. Hein. Donc voilà, donc le Johnny Boy a été bon. Alors il hype comme il peut son match, hein, parce qu'il en est quand même malgré tout réduit au même problème que tous les autres. Hein.
Ouais.
Donc il a essayé, comme tu l'as dit, d'essayer de nous vendre ça avec la panique, la peur, l'incertitude. Il a beaucoup rappelé l'incertitude qu'il y avait autour de tout ça. Et puis bon. Voilà, c'est Johnny Boy, c'est John Cena, c'est le Marine. Lui, il paniquera pas, il a pas peur. Il va écrabouiller le Bray Wyatt. Et puis, j'ai bien aimé qu'ils disent qu'il va finir ce qu'il avait commencé il y a 6 ans.
Oui, c'est vrai.
Voilà, tu vois, lui, il se rappelle de ce qui s'est passé au préalable, ce qui n'est pas toujours le cas de certains. Mais lui, il s'en rappelle. Et il s'en rappelle d'ailleurs en disant qu'il va finir ce qu'il a commencé il y a 6 ans, parce que de toute façon, Bray Wyatt, il n'est pas au même niveau que lui. Et qu'il n'a aucune chance, Fiend ou pas Fiend. Donc, j'ai trouvé vraiment que sa promo mais collait la route. Elle était complètement cohérente. Et il a dit un truc vachement important. Je ne sais pas si tu l'as calculé, mais parce qu'il a quand même dit, hein, vers la fin, avant que les marionnettes apparaissent, il a dit qu'il était prêt à se retirer et à préparer l'avenir. Et que comme le Fiend lui a lancé le défi, mais que donc finalement il nous a quasiment teasé ça comme son dernier challenge, hein, le Johnny Boy, hein, ce qui a dû faire un peu pleurer dans les chaumières chez Giscal, hein.
En Normandie, ouais.
Il l'a dit textuellement, quoi, qu'il était prêt à se retirer et à se préparer à l'avenir. Donc là, le Johnny Boy est en train peut-être de nous teaser sa retraite quasiment de manière officielle, même si on sait bien que dans le catch, la retraite n'existe pas véritablement et que de toute façon, je n'imagine pas une seule seconde le John Cena se retirer des rings sans avoir d'abord un énorme match, un énorme farewell match à l'image de ce qu'on avait vu précédemment avec le Ric Flair versus Shawn Michaels, quoi, tu vois. Je n'imagine pas la WWE mettre à la retraite son poster boy depuis 18 ans sans au préalable lui faire une sortie digne du Marine.
Ah oui, ça c'est clair.
Donc voilà. Et après, bah, pour terminer sur ce segment, toute la fin, bah, c'était plutôt bien avec toutes les marionnettes, etc. L'arrivée du Fiend en haut de l'espèce de balcon, là, d'où d'ailleurs Corbin avait balancé Elias la semaine dernière. Confrontation des yeux.
Ah
et puis l'arrivée. Mode un peu taker de Bray Wyatt pour le Let Me In. J'ai trouvé ça bien foutu. J'ai bien aimé. Que le show se termine là-dessus, bah, pourquoi pas. C'est pas la première fois depuis le confinement là, que c'est Cena qui close SmackDown et qui en balançant une promo comme il sait faire. Donc écoute, ça a peut-être été pour moi pas loin, on en parlera dans le top flop note, mais pas loin d'être un top de l'émission, en tout cas, quoi.
Moi, j'ai beaucoup aimé, ouais. Et je dois dire que j'ai un gros point d'interrogation pour ce WrestleMania. On en a parlé tout à l'heure. C'est à quel point ils vont complètement modifier le scénario des matchs en utilisant l'absence de public et le fait que ça soit enregistré pour nous remonter ça, nous faire des cuts, des machins et tout.
Ouais.
J'étais pas très convaincu par la chute d'Elias de la semaine dernière. Mais là, si c'est de cette qualité-là, parce que j'ai trouvé ça... Ils ont utilisé l'absence de public parce que clairement le segment avec toutes les marionnettes au bord du ring, bah, s'il y avait de la foule, ça c'est pas possible. Donc ils ont scénarisé un truc là. John Cena tout seul dans une salle vide, donc en plus Michael Cole ne commente plus hein, à ce moment-là, il y a vraiment plus que la voix de John Cena, puis des marionnettes, puis le Fiend. Là, j'ai trouvé que c'était réussi, donc ça peut me rassurer dans le sens où je me dis, bon, ben, ce Firefly Funhouse, et puis les autres matchs à Stipu, celui de l'Undertaker et tout, voilà, c'est une question, est-ce qu'ils vont pas aller trop loin dans le cut et dans le surmontage? Si c'est ça, si c'est comme ça, c'est bien fait. Et moi, j'ai adoré la fin. Alors, comparé à la dernière fois où on avait eu ce face-à-face John Cena Bray Wyatt qui finissait avec un écran noir et puis le show s'était éteint là-dessus. Et je me souviens que tu avais été très surpris de cette fin de show.
Ouais.
Là, j'ai beaucoup aimé, en fait, ces 2-3 secondes où John Cena se retrouve tout seul. Il n'y a plus rien, il n'y a plus les marionnettes. Limite, on pouvait presque entendre le vent et voir passer une feuille morte. Quoi. Ça avait la solitude autour de John Cena ne s'est-il pas lancé dans un défi trop fort pour lui, parce que dans son discours il est assez déroutant hein. c'est pas souvent que John Cena on va dire enterre et méprise autant son adversaire. D'habitude il nous dit toujours voilà machin est très fort etc, mais là comme tu l'as dit hein, Bray Wyatt il veut il est pas plus fort que moi, voilà, c'est pas lui l'avenir, il prend un peu de haut quand même Cena, donc c'était bien, moi j'ai bien aimé, ouais, c'était bien foutu cette fin de show. Et puis ben voilà, qu'est-ce qu'on pourra faire? Bon, je suis comme toi, hein. En plus il est en bonne condition physique, John Cena, je suis convaincu que ça ne peut pas être son dernier match, d'autant plus que même s'il avait peut-être eu ça en tête avec ce WrestleMania enregistré sans public, c'est sûr qu'il aurait changé d'avis et qu'il va nous faire autre chose et qu'il va nous faire un farewell match ou un nouveau title shot, voire même un nouveau, je sais pas moi, s'il a 3-4 mois de libre dans son emploi du temps, il peut nous faire un run de champion quand il veut, à la limite.
Ouais, pour battre le record définitivement de Ric Flair.
Voilà.
Voilà, tu vois, passer à 17 titres et puis être vraiment le seul et unique. Mmh. Et puis de toute façon, je n'imagine pas une seule seconde Cena arrêter sa carrière sur un truc pareil de WrestleMania 36. Hein. Ça serait...
En plus,
je pense que la l'IWC déverserait tellement de sauts de merde sur la WWE qu'il reviendrait très très vite en arrière de toute façon.
Oui, je pense.
Il
aussi.
N'est pas question de faire finir John Cena sur un truc pareil, quoi.
Non, je pense que ça c'est à peu près acquis. Ben écoute, voilà, hein, je l'ai dit, fin du show, du dernier show des shows, petite ambiance de fin du monde, mais. Nous, on reste debout et on n'en perd pas les bonnes vieilles habitudes. Donc, ben,
ouais.
Il faut top, flop et notes. Hein. Mot de la fin, là, Chris.
Ouais, mot de la fin. Bah, écoute, mon top, flop, note va être assez simple. Mon flop, je le donne segment féminin. voilà, quoi que je trouve.
Lequel
Ah oui, lequel
les deux. Tous les segments féminins, si tu veux.
Comme je me suis suffisamment et trop exprimé sur l'histoire Otis Ziegler et que j'ai pas envie de leur donner plus d'honneur que de ça, donc je vais donner mon flop au passage Tamina et compagnie.
Okay.
Voilà, que j'ai trouvé très très mauvais, que j'ai trouvé Bayley encore très très mauvaise, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise dans l'acting, oh là 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 là, c'est terrible, quoi. Puis alors son t-shirt, alors là autant je m'incline devant le t-shirt de Cesaro, autant son t-shirt Bayley role model là, ça me file de l'urticaire, quoi.
Ah oui, ça.
Et alors donc après le Covid-19, manquiller de l'urticaire, ça le fait pas, quoi. Je zappe Otis Ziegler et je donne mon flop à ça, et je donne mon top à ce qu'on vient d'expliquer, je donne mon top à Johnny Boy et au Fiend, voilà, pour le segment final. Voilà, j'ai trouvé cette promo excellente, j'ai trouvé Johnny Boy en forme,
ouais.
Et je considère que c'était une très belle promo, comme il sait faire malgré le confinement. Voilà, Johnny il est resté à l'image de lui-même, donc ça me fait plaisir. Et ma note, de toute façon, je vais pas lui donner la moyenne, donc je vais lui donner un simplement 2.
Simplement 2. J'ai un peu envie de mettre les mêmes, hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors moi, je vais mettre le flop quand même, c'est un gros truc, on en a beaucoup parlé, mais voilà, à la façon dont la WWE nous annonce son changement de main event pour le titre universel.
Ah oui, j'aurais pu aussi, oui.
Ouais, ça c'est quand même... Honnêtement, je l'avais zappé, hein. Moi je suis du genre, bon, comme nous tous, hein, je pense des fois à accélérer là, quand ils te mettent la petite la petite promo des toutes les affiches de WrestleMania qui réapparaissent ou certains segments, voilà, j'avance un petit peu d'une minute ou deux. J'avais complètement raté l'info, donc c'est vous dire à quel point c'est passé inaperçu. J'ai dû revenir en arrière pour me rendre compte que ça avait été annoncé. Donc gros flop sur ça, parce que c'est vraiment... c'est contrairement à ce qui a pu se faire ailleurs, notamment... ben on compare un peu avec la AEW, notamment dans les fameuses bastons du mercredi que je vous invite à écouter sur Catch-Up.
Oui, d'ailleurs, j'aurai un petit complément d'info à vous donner après.
Ah,
vas-y, continue.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que bon, il y a eu quelques infos, notamment de John Cena à la fin et un petit peu là de Big E au début au micro. Mais j'aime pas du tout le fait qu'on fasse comme si de rien n'était. Et qu'on nous fasse comme si c'était vraiment trop bien, que ça soit WrestleMania Too Big for One Night, et que ça soit vraiment une année trop cool parce que c'est exceptionnel, et voilà. Et là, ouais, finalement, on change d'affiche universelle. Non, enfin, je veux dire, ok, on est dans un monde, on est à la WWE, c'est le rêve, on veut s'évader du quotidien, mais ça vous prend pas grand chose de dire, d'avouer que bah, y a des trucs que vous aviez pas prévus, qu'il y a des merdes qui arrivent, et que bah, non, c'est pas si cool cette année parce qu'il n'y a pas de public. Donc, point négatif là-dessus, point positif au main event, effectivement, John Cena et The Fiend. Et bon, oui, on va mettre un petit 2 aussi, pareil, même note. Et je te laisse donner l'update du mercredi.
Alors oui, petit update concernant notre review du baston du mercredi avec l'Amiral Am hier. Pour vous donner les ratings qu'on n'a pas pu vous donner hier parce qu'ils n'étaient pas tombés. Donc, sachez tout de même que la AEW a donc gagné la baston du mercredi en termes de ratings, puisqu'ils ont fait 685 000 téléspectateurs et que la NXT en a fait 590 000. Donc, ah ouais. La réalité, hein, c'est que les deux shows se sont effondrés dans les ratings.
Ah oui.
Ah ouais, se sont complètement effondrés. Que les taux finalement se resserrent un peu, hein, puisqu'il n'y a que 95 000 de téléspectateurs d'écart entre les deux shows, ce qui est la première fois que c'est aussi serré. Deuxième petite info qu'on ne vous a pas donnée hier parce qu'on ne savait pas, parce que ça n'a pas été dit par Dynamite, mais l'épisode de Dynamite a été enregistré depuis la Nightmare Academy qui appartient à QT Marshall, le partenaire de tag team de Dustin Rhodes. Voilà. Et troisième petite info, c'est que la police est intervenue pendant les enregistrements de la AEW pour faire fermer les enregistrements de la AEW. Alors, est-ce un coup du Vincent Kennedy McMahon ? Pourquoi pas ? Je le vois bien passer un coup de téléphone à la police de Jacksonville, enfin, ou de Géorgie, puisqu'en l'occurrence, c'est en Géorgie. Pour leur dire, hey, y a les enfoirés de la AEW qui continuent à faire leur enregistrement alors que vous nous avez demandé de fermer, ça va pas du tout. Et apparemment, Tony Khan avait prévu ses arrières et avait prévu le coup, le mec, quoi. Et donc il avait toutes les autorisations possibles et inimaginables pour pouvoir justifier le fait que la AEW continuait ses enregistrements. Voilà, ça c'était les trois petites infos qu'on n'avait pas hier à vous donner. On en est désolé d'ailleurs. Et avec l'amiral, on n'avait pas ces infos-là au moment où on a enregistré. Donc voilà, l'erreur est réparée.
Merci beaucoup, Chris. Voilà, maintenant, on sait tout de ce qui se passe dans cette guerre du mercredi. Ben, écoutez, les amis, j'espère que ça vous a plu d'écouter cette review. J'espère que vous en avez bien profité parce que c'est peut-être la dernière avant un moment, je le répète. Enfin, on va bien sûr reviewer WrestleMania quand même. Et justement, ben, à ce propos, avant de finir, Chris, on va faire ce que vous avez fait, ce qui a été fait... Pour Monday Night Raw, on va essayer de reprendre un peu les pronos. On va donner nos avis là pour ce WrestleMania hors du commun. Alors la carte.
Alors moi j'ai la carte sous les yeux si tu veux.
Ouais, on fait tout du coup.
On fait tout. Bah oui, on se prend pas la tête parce qu'on vous l'annonce, cher peuple de Catch-Up, il y aura pas de preview pronos à Catch-Up. On a décidé qu'on faisait un total package dans ce SmackDown. Et puis, bon, vu la qualité du SmackDown qu'on vient de vivre, on va pouvoir parler. Donc, écoute, si tu veux, comme je l'ai sous les yeux, moi, je te propose, j'annonce les matchs. Et puis après, chacun notre tour, on donne notre prono. Et puis voilà, yes. On roule les jeunesses.
Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, c'est parti.
Allez, on y va. Allez, on commence donc avec les pré-shows.
Ouais.
La low-card. Elias contre Baron Corbin.
Raphaël. Baron Corbin.
Baron Corbin.
Ah, c'est, j'ai pas dit que c'était le pronom du cœur. Hein.
Ah non, 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 bien sûr. Hein, mais
j'ai pas envie de parler plus que ça de ce match, mais il a l'air un peu plus haut sur la carte et là, Yas reste dans le rôle un peu du trublion. Donc, Corbin va gagner, je pense.
Ouais, bah, je te suis, je suis totalement raccord. Je donne Baron Corbin également. Okay. Otis contre Dolph Ziggler.
Bah, là, disons que la logique, l'aspect vengeance. La jeunesse aussi irait plutôt du côté d'Otis, même si ça me fait chier vraiment. Je préférais que Ziggler gagne. J'aimerais bien vraiment qu'il n'y ait pas de justice et que voilà, le méchant ait volé et la girlfriend et gagne le match. En même temps, avec les dernières révélations, peut-être que Mandy Rose va retourner avec Otis, je ne sais pas. Bon, je vais jouer le cœur là pour le coup. J'aimerais bien que Dolph Ziggler gagne. Allez.
D'accord. Moi, je vais donner Otis. Mais ouais. Je ne dirai pas un mot de plus là-dessus parce que j'en ai strictement rien à carrer. Donc voilà, je suis triste pour Dolph Ziggler. C'est mon seul constat dans cette rivalité. Ensuite, alors derrière, on a un Aleister Black versus Bobby Lashley.
Bon, Aleister Black, hein, là, je n'ai pas photo.
Ouais. Moi, pareil, je donne Aleister Black parce qu'en plus, de toute façon, c'est quand même une honte puisque Bobby Lashley ne sera même pas apparu, même pas par un caméo. Quoi. C'est-à-dire que le mec est dans une feud dans laquelle il n'existe pas. Il passe son temps au plumard avec Lana, et c'est tout ce qu'il fait depuis le début. Quoi. Donc, je ne lui en veux pas de passer son temps au plumard avec Lana, hein, entendons-nous bien. Hein.
Non, mais ça aide pas à être en grande forme pour un match de catch, je pense.
Je suis d'accord, ouais. Un peu trop d'abus un peu trop d'abus sous la couette est néfaste à... aux performances entre les cordes.
Exactement.
Donc, pour l'instant, on est bien raccord. Alors là, on commence à rentrer dans le dur maintenant.
Ouais.
Kevin Owens versus Seth Rollins. Ah.
Ça, c'est plus dur. Bah, est-ce qu'ils vont modifier des matchs en fonction de la situation? Parce que dans une feud normale, pour moi, là, c'est un truc qui était parti pour durer des mois, même peut-être jusqu'à SummerSlam ou je ne sais quoi. Donc, je mettrais Rollins gagner la première manche. Mais avec tout ce qu'ils ont raconté sur le côté Performance Center, etc. Non, je vais quand même laisser mon prono à Seth Rollins.
D'accord. Eh ben, écoute, moi, je te suis pour une raison que je considère que s'ils ne veulent pas casser le personnage du Monday Night Messiah, ce n'est vraiment pas le moment de le faire perdre. Et en plus, parce que Kevin Owens, finalement, je crois qu'il s'en tamponne de gagner ou de perdre cette rivalité. Ça n'aura pas d'impact sur la suite de sa carrière. Ça n'aura pas d'impact sur son aura et je pense que c'est surtout une victoire utile à Seth Rollins. Pour Kevin Owens, c'est un peu en mode OSEF.
Et à son clan, ouais, ça va les renforcer.
Et à son clan, ça va renforcer son clan, ouais, tout à fait, ouais, t'as raison. Ouais. Ensuite, alors là, attention, là on a le Edge versus Randy Orton dans un Last Man Standing match.
Bah, vu toute la rivalité, pour moi, le payoff, c'est la victoire de Edge. En plus, son retour depuis 10 ans. Là, ça me semble à peu près évident, même si pour moi, Randy apparaît beaucoup plus fort, beaucoup plus affûté, beaucoup plus jeune dans toute la FUD. Edge, j'ai un peu peur dans un one-on-one. Bon, le Last Man Standing, ça laisse largement le temps de respirer. Puis en plus, ils vont pouvoir faire des coupures écran. Donc tant mieux pour eux, mais bon, La justice de la FUD voudrait que Edge venge sa femme et son honneur, je pense.
Ouais, moi aussi je vais donner une victoire de Edge. Moi je suis un peu inquiet pour l'intégrité physique de Edge. Je suis un peu inquiet pour son état de forme général. Je suis pas sûr qu'un mec qui a pas catché à grosse intensité depuis 9 ans puisse nous délivrer véritablement la marchandise durant ce combat. Mais c'était un match qui m'aurait beaucoup intéressé aussi dans des circonstances normales. Mais je te rejoins, je vais donner Edge aussi. Alors, derrière, on a le Undertaker versus AJ Styles dans un Boneyard match.
Voilà, c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu la même histoire, en fait. Je pense que l'Undertaker va venger son honneur et sa femme. Et AJ Styles a bien la gueule à se faire abattre le caquet. Au début, je pensais que Styles allait l'emporter, j'ai cru un instant, mais l'ami Giscal m'a convaincu du contraire. Ça paraît assez logique, quoi, qu'il soit là juste pour se faire kiffer sur ce Dream Match, qu'il en prenne plein la gueule et que le Deadman gagne.
Eh bien, écoute, c'est effectivement, si on avait eu un match Undertaker versus AJ Styles, là, en l'occurrence, on a un match Mark Calloway versus Allen Jones.
Ouais.
Et voilà, c'est une feud personnelle, hors kayfabe quasiment. Et donc, c'est pour cette raison que je vais donner l'Undertaker vainqueur. Mais si on était resté dans des personnages qui avaient respecté le kayfabe, eh ben moi, j'aurais donné AJ Styles vainqueur.
Ouais.
Mais là, oui, tu as raison. Et puis, Boneyard match, de toute façon, je pense que c'est largement à l'avantage de l'Undertaker. Il va être sur son terrain.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas du Styles. Donc, voilà, moi aussi, je donne l'Undertaker. John Cena versus The Fiend dans un Firefly Funhouse match.
C'est pas évident, mais c'est pas évident parce que c'est Johnny Boy. Mais je pense que là, 6 ans après, dans cette stipulation-là en plus, et avec le personnage du Fiend, là c'est plutôt un. Surtout après cette horrible perte du titre du Fiend, il faut le rebooster un peu ce monstre. Donc je pense qu'il va obtenir sa revanche. Je vois The Fiend gagner. C'est pas facile et John Cena a fait une très bonne promo ce soir qui me laisserait penser l'inverse, mais je pense que John Cena va perdre.
D'accord, moi je donne John Cena qui gagne.
D'accord.
Parce que moi je pense que la WWE, on n'a plus grand chose à foutre du personnage du Fiend sur certains aspects. à l'image de comment elle lui a fait perdre le titre de manière catastrophique. Et du coup, moi, j'ai plutôt tendance à penser que le Johnny Boy va gagner, mais qu'ils vont, il va y avoir un ressort scénaristique derrière tout ça, que ça va être un match filmé un peu en mode cinéma, et que la WWE va pas avoir envie que son poster boy perde pour rajouter à, tu vois, à l'espèce de marasme général dans lequel on est, et ils se disent. Ah bah au moins si John Cena gagne, voilà, tous les enfants ils vont être heureux et voilà, tous les enfants vont voir le gentil Johnny Boy gagner face au très 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 méchant Fiend. Donc moi je vais donner John Cena vainqueur. Alors ouais, derrière
ça se comprend.
Voilà, derrière on enchaîne avec le match pour les titres de championne par équipe où il n'y a pas de stipulation particulière, donc entre les Kabuki Warriors qui sont les championnes en titre contre Alexa Bliss et Nikki Cross, former champions.
Y a pas de stipulation, mais quand il y a Alexa Bliss, il y a de la stimulation. Moi j'aime bien Alexa Bliss.
Ouais, moi j'aime bien Alexa Bliss aussi. Ouais.
Et bah je pense qu'elles vont gagner. Je les trouve sur une bonne dynamique là, les deux. Elles sont populaires, elles sont très très bonnes. Bon, les Kabuki Warriors sont talentueuses aussi, mais on les a pas vues hein, comme championnes. On a beaucoup plus vu les challengers. Donc, moi je trouve que ça serait logique qu'elles récupèrent leur titre. Ouais.
D'accord. Et bah moi je vais encore à nouveau être de l'autre côté. Barrière, puisque d'accord. Moi je vais donner les Kabuki Warriors qui conservent.
D'accord.
Parce que je trouve que Asuka a fait grave le job ces dernières semaines.
C'est vrai. Ouais.
Qu'il l'utilise beaucoup et c'est assez surprenant qu'il lui donne d'ailleurs autant de micros. c'est incroyable le temps de micros qu'aura eu Asuka ces dernières semaines. En plus, en japonais, c'est d'autant plus incroyable. Et je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont pas vouloir finir le règne des japonaises. Et ils vont vouloir que ça se finisse dans un cadre legit et dans un cadre plus traditionnel une fois qu'on sera sorti de ce confinement d'ici 2025. Donc je pense que les Kabuki Warriors vont conserver. Ah, c'est et on continue. Ouais. Vas-y, excuse-moi.
Non, je disais, c'est une bonne remarque. Je pense qu'il y a des affiches dont les résultats vont changer parce que ils vont booker sûrement une revanche ou autre dans des conditions meilleures et notamment peut-être beaucoup de comment on appelle ça, de feel good ou d'autres moments très riches en intensité, des changements de ceinture ou tout ça qui vont peut-être être repoussés à des jours meilleurs, donc peut-être qu'on aura un statu quo, hein. Ça sera intéressant de voir le bilan à post-WrestleMania, combien de ceintures ont changé de main.
Clairement. Et puis en plus, si tu veux, WrestleMania c'est quand même traditionnellement souvent un face fest. Voilà, les faces sont souvent à la fête. En l'occurrence, sur le match dont on parle, les Kabuki qui sont des heels, hein, mais effectivement, ta remarque, elle est pertinente comme d'habitude, mon Raphaël. Quoi.
Merci.
Et voilà, il y a de fortes possibilités pour que derrière, il y ait des matchs revanches, qu'on nous remette un peu de la sauce de tout ça. Quoi. Alors, on continue avec les championnats par équipe. Donc, match pour les titres de champion par équipe de SmackDown. Ladder match entre le Miz, John Morrison, les Uso et le New Day.
Moi, je vois les champions qui conservent. Je pense qu'on continue de forger un peu leur légende. Au dépend de Uso et de New Day qui ont déjà tout fait, tout gagné.
C'est vrai.
Ça me semble plus intéressant que Miz et Morrison soient champions. En plus, ils sont très très bons au micro et tout. Il faut qu'ils continuent de faire les malins là. On kiffe quand ils font le quand ils fanfaronnent là.
Ouais, effectivement, je kiffe quand ils fanfaronnent quoi. Mais moi, ça va pas m'empêcher de donner les New Day vainqueurs.
Ah oui.
Ouais, parce que moi, je reste toujours dans l'état d'esprit. Je pense aux enfants et,
okay.
Et je pense que vu la sinistrose actuelle. La WWE se dit pour faire kiffer les enfants devant leur télé et les faire rester devant leur télé, rien de tel qu'une bonne petite victoire des New Day et leurs bootyoses pour donner des sourires sur les visages.
Ah, c'est beau.
Voilà. Et je vois bien après, comme tu l'as expliqué précédemment, là, je vois bien après le Miz et John Morrison continuer à l'attaque des New Day et tout faire pour récupérer leur titre une fois revenus dans des conditions normales. Donc, moi, je vais donner le New Day. Hein. Match pour les titres de champion par équipe de Raw. Les Street Profits, versus Andrade et Angel Garza. Voilà. Là, ceci n'est pas un spoiler. Hein, Andrade a été déclaré officiellement blessé.
Ah d'accord, oui, c'est ce que j'ai
dit. Donc je n'ai pas le nom. Jusqu'à il y a à peu près 15 minutes, j'ai cru que je n'allais pas avoir le nom de son remplaçant, mais ça y est, je l'ai.
Ah.
Son remplaçant, c'est Austin Theory.
C'est celui qui était là.
Oui, celui qui était là lundi dernier. Ouais, ouais. Qui était là à Raw lundi dernier. Donc c'est lui qui sera le remplaçant, le backup de Andrade pour ce title match. Alors, mon Raphaël.
Bah, du coup, d'autant plus dans ce cas-là, moi je pense que Street Profit conserve déjà parce qu'il y a les petits enfants. Ça c'est bien. Ils vont être contents et parce que il y avait Andrade, mais là Angel Garza et Theory, il me semble quand même bien bien green pour gagner. Au moins ça règle une question qui était pourquoi Andrade est le seul champion à ne pas défendre son titre puisqu'il a le titre US. S'il est out, il est out quoi. C'est couillon de se blesser dans cette période-là, mais au moins il aura le temps de se remettre dans les semaines à venir.
Ouais. Et puis je crois que ça va faire un sacré pail que le titre US n'avait pas été défendu à WrestleMania.
On continue.
Donc toi tu donnes les Street Profits le tonton Chris fait la même chose que son tag team partner. Moi aussi je donne les Street Profits. We want the smoke.
Yes.
Allez, match pour le titre intercontinental. Sami Zayn champion versus Daniel Bryan.
Alors sur le coup c'est mitigé parce que j'aime beaucoup la faction Zayn Cesaro Nakamura. J'en profite d'ailleurs pour rebondir sur ce que l'ami Cody a dit dans ton You Talk Too Much, que j'invite tout le monde à écouter. Il était un peu déçu, Cody. Pour lui, Sami Zayn, c'était un catcheur, on va dire, de in-ring, qui devait gagner en étant un babyface parfait. Moi, je trouve que dans une carrière de catch, on peut se réinventer, et je trouve que Sami Zayn se réinvente. Enfin, quand on imagine le Sami Zayn de l'époque NXT, se dire ce mec-là va être un super top heel au micro, c'était improbable. Et il a réussi, donc j'aimerais bien qu'il continue d'être champion. Mais comme j'ai dit tout à l'heure dans l'analyse, ça me plairait bien aussi que Cesaro et Nakamura deviennent des challengers. Donc je vais dire que Daniel Bryan gagne et qu'ensuite Sami Zayn enverra ses petits protégés contre le Daniel Bryan pour ce titre-là. Donc, victoire de Daniel Bryan.
Ok. Eh ben, écoute, à nouveau, je vais aller à ton encontre, puisque moi, je vais donner Sami Zayn.
Bah, les petits-enfants
Ouais, je sais. Là, pour le coup, là, je suis pas dans le camp des petits-enfants, là. Là, je suis dans le camp des méchants. Ah, je peux être très, très méchant quand je le veux.
D'accord.
Je vais donner Sami Zayn parce que j'aurais donné une victoire de Daniel Bryan dans des circonstances classiques. Mais là, je pense que le heel va conserver, ça va être un match avec énormément de d'overbooking, d'interférences, de tout ce que tu veux, puisque là, quand même, mine de rien, on va avoir autour du ring Gulak, Cesaro, Nakamura. Donc, il va y avoir un joyeux bordel autour de ce match, ce qui ne sera pas plus mal d'ailleurs. Et du coup, je vois bien des grosses tricheries de la part de Zayn. Je vois d'ailleurs, je vais même te dire, je vois même une victoire de Sami Zayn qui conserve grâce à une DQ.
Ah d'accord.
Et donc du coup, je donne Sami Zayn vainqueur. Voilà. Mm-hmm. Enfin, je donne Daniel Bryan vainqueur par DQ et Sami Zayn qui conserve.
Ah oui, voilà. C'est différent alors. Oui, d'accord.
Ah ouais, c'est un petit peu différent. Ouais. Un petit okay. peu différent. Voilà. Bon, bah là maintenant on rentre dans la top card.
Wow. Voilà,
les main events féminins et masculins. Donc on va attaquer par un match féminin. On attaque avec le match pour le titre NXT. Rhea Ripley face à Charlotte Flair.
Bah moi je ne peux que dire que je suis hyper déçu que cette affiche là soit dans ces conditions. Je crois que c'est l'affiche pour laquelle je suis le plus triste. Parce que je deviens petit à petit un grand fan, un grand amoureux de Rhea Ripley aussi. Et je trouve ça vachement audacieux et intelligent d'avoir envoyé Charlotte Flair pour le titre NXT. Enfin, c'est vraiment, là pour le coup, très très beau travail scénaristique, je trouve. Parce que quand Charlotte a gagné le Rumble, moi j'étais persuadé qu'on partait vers Charlotte Bailey assez classique. Là, c'est quand même, ils sont allés chercher loin, à nouveau pour mettre en valeur NXT, pour mettre over cette fédé. C'était du bon travail et c'est un peu triste qu'il n'y ait pas de public. Je pense garder le pronostic que j'ai depuis le début, c'est-à-dire que cette affiche, elle est là pour Rhea Ripley, parce que Charlotte, elle a déjà tellement tout gagné que je vois pas trop ce qu'elle foutrait avec le titre NXT déjà. Et puis, ben ouais, ça serait pas très intéressant qu'elle revienne un peu en arrière. Donc, Rhea Ripley gagne. J'espère qu'elles nous feront un très beau match au mieux qu'elles peuvent. Et qu'on en aura d'autres grandes affiches avec les deux jeunes femmes dans le futur. Mais sur le point de vue prono, ouais, je suis pour la championne.
Ok, ben moi je te suis aussi, puisque d'ailleurs, de toute façon, moi je l'ai annoncé lundi. Moi aussi, je donne Rhea Ripley. Qui conserve son titre. Ma seule inquiétude à propos de ce match, c'est qu'on donne le titre à Charlotte Flair juste pour des raisons de ratings de NXT. Et qu'il se décide à donner le titre à Charlotte Flair juste pour amener du star power à NXT dans la lutte face à la AEW. Et pour dire, vous voyez, nous, chez les filles à NXT, on a le top of the top de la crème. Et donc c'est Charlotte qui a le titre. Voilà, c'est un peu ma seule inquiétude. Mais je donne tout de même Rhea Ripley vainqueur. Mmh. Alors, on reste chez les femmes. Le match pour le titre de championne de SmackDown, Fatal 5-Way, Bayley versus Lacey Evans versus Naomi versus Tamina versus Sasha Banks.
Alors non seulement ça me fait chier comme affiche, mais en plus... Non, bah, y en a que deux quoi qui peuvent gagner, c'est Bayley ou Sasha Banks.
Oui.
Moi, je pense que s'il y avait eu une élimination, ça aurait pu être intéressant.
Tu crois ? Eh ben, moi, j'ai un doute là-dessus. Hein, parce que si on avait fait un match à élimination, on aurait été quasiment certain à 99,9% que le match serait fini avec Sasha et Bayley. Au moins, là, on aura l'assurance que les cinq vont rester dans le ring. Et qu'il y aura une petite part d'incertitude, quoi.
Oui, t'as raison. Alors, le truc qui peut arriver, c'est un moment où Bayley est out hors du ring, Sasha Banks qui réussit à placer quelque chose et à lui prendre un peu le titre, mais sans... De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas un pin direct de l'un contre l'autre. Hein. C'est sûrement Naomi ou Tamina ou Lacey Evans qui va faire les frais de la feud.
Ouais, je suis d'accord.
Je vais quand même parier pour... Pour la championne qui conserve, quand même, Bayley va garder le titre, je pense. Mais c'est vraiment comme ça pour dire un nom, ça pourrait très bien être Sasha Banks qui lui vole discrètement aussi.
Ouais, moi je vais donner Sasha Banks.
Okay,
pour faire plaisir à Ringside en fait. Pour renforcer l'amour de Ringside pour Sasha Banks.
C'est vrai.
Voilà, ça sera son kiff de la nuit, comme je sais qu'il va le regarder en live. Donc, donc ça sera son kiff de la nuit d'avoir Sasha Banks qui brandit la ceinture de SmackDown bien haut. Voilà. Comme quoi, hein, des fois, j'ai pas beaucoup d'arguments.
Hein. C'est sûr.
Allez, on termine avec les femmes pour le match pour le titre de la championne de Raw. Et ça sera donc Becky Lynch face à Shayna Baszler.
Moi, je vois Becky Lynch gagner. Je vois pas Shayna Baszler avec l'aura nécessaire pour. Mais qui battra Becky Lynch en fait? C'est ça. Si c'est pas Shayna. Moi, pour moi, la seule chose qui peut mettre fin au règne de Becky Lynch de manière un peu légite et qui fasse pas trop contestation, c'est un Money in the Bank et c'est un cash-in et un truc comme ça. Parce qu'en un contre un, il faut qu'elle reste the man, quoi. Il faut qu'elle reste intouchable. Je suis pas un gros fan de Shayna Baszler. J'accepte complètement son personnage de tueuse, de domination. Mais j'ai toujours trouvé à NXT que ses matchs, c'était technique. C'est un peu chiant des fois. Enfin, c'est plus la grande époque des Asuka ou des Horsewomen. Donc je suis pas un grand fan de Shayna Baszler. Donc Becky Lynch, pour moi, Becky.
Je te suis. Moi aussi, je donne Becky vainqueur. Je m'en suis expliqué mardi. Moi, mes raisons, entre autres, parce que c'est que je pense que Becky va avoir droit à un très long règne à la CM Punk ou à la Brock Lesnar. Ouais. Et que, bon, malheureusement, Money in the Bank, j'ai peur qu'on n'en ait pas cette année, vu que Money in the Bank, en général, c'est au mois de juin. Mm. Et que, comme les États-Unis ont quand même pas mal de. Ont au moins 15 jours de retard sur l'Europe rapport au Covid. Donc je sais pas si on aura un Money in the Bank cette année, mais moi je vais donner aussi Becky vainqueur parce que pour qu'elle soit là pour renforcer complètement ce titre de la championne undisputée là depuis plus d'un an maintenant et qui est au top de la chaîne alimentaire et malgré les esprits chafouins de certains, moi je trouve qu'elle fait un run magnifique et qu'elle mérite là où elle est à l'heure actuelle. Quoi. Mm-hmm. Voilà, et eh ben écoute, on arrive dans les deux derniers matchs. Les deux derniers matchs. On va par le match de SmackDown pour le titre de champion universel. Goldberg versus Braun Strowman.
C'est dur là. C'est pas facile parce que en temps normal avec Roman Reigns, moi je mettais Roman Reigns de suite, enfin Goldberg.
Ah bah ouais, moi aussi. Si Roman Reigns avait été là, moi aussi comme toi, j'aurais donné Roman Reigns.
Voilà, ça paraissait évident. Maintenant là, d'ailleurs ça me fait remarquer que il y a un an et demi quand Roman Reigns a laissé tomber du jour au lendemain son titre mondial pour aller se soigner du retour de sa leucémie, bah c'était pareil, c'est Braun Strowman qui l'avait remplacé au pied levé pour affronter Brock Lesnar, ça devait être en Arabie Saoudite justement, et il n'avait pas gagné, hein. Ils avaient donné le titre à Lesnar. Donc est-ce qu'ils vont pas faire ça là aussi? Est-ce qu'on va pas dire allez on repousse de 2-3 mois, on trouvera bien une date pour Goldberg, parce que Roman Reigns n'est pas malade en soi, enfin a priori, aux dernières nouvelles, il pourra recatcher dans 2 mois, c'est juste qu'il craignait la contagion. Donc, puis ça me ferait chier que Braun Strowman, son premier titre mondial, quand même, c'est un catcheur auquel on a un peu de sympathie, qui a une carrière un peu bizarre, hein, de power man, qui gagne pas souvent non plus, mais qui a des beaucoup de moments, voilà, Non, je pense que... Puis ça me fait chier parce que ça va forcément être court, donc Braun Strowman se fera sûrement squatcher. Je pense que Goldberg va gagner quand même, mais ça me fait un peu chier.
Ouais, je te suis sur ce truc-là aussi. Voilà, tout ton analyse me paraît juste. Et moi aussi, je vais donner Goldberg qui conserve son titre.
Ouais, pas
ça
facile.
Ça m'emmerde, ça m'intéresse pas. Ça m'attriste même par moments, mais je vais donner Goldberg qui conserve. Allez, et on arrive enfin. Elle est longue, hein, cette carte de WrestleMania.
Ouais.
On arrive enfin, voilà. On va dire au main event. Au main event. Parce que j'espère que ça va être le main event quand même de ce WrestleMania 36. Et donc, ouais. Brock Lesnar versus le bel homme, le psychopathe écossais, Drew McIntyre.
Là, j'ai plutôt envie de quand même conserver mes billes sur Drew McIntyre que j'avais au début. Mais c'est pas gagné.
Non, c'est pas gagné, ouais.
C'est pas gagné. Moi, je le trouve très réussi comme construction d'un challenger. Peut-être une des meilleures constructions de challenger d'un vainqueur du Rumble de ces dernières années. Très crédible. Voilà. Brock Lesnar a fait. Il s'est bien couché pour mettre over Drew là, ces dernières semaines. Les circonstances sont un peu spéciales, c'est sûr. Rien n'empêche un rematch. En plus, voilà, c'est un peu même l'habitude de Brock Lesnar, hein, que ce soit contre Reigns ou contre Rollins. Il a souvent affronté plusieurs fois ses challengers, donc on peut très bien avoir un rematch à SummerSlam que Drew remporterait. Mais, comme tu l'as dit, on est dans un WrestleMania, on est dans un Face Fest, et je pense qu'il y a vraiment, de la part de la WWE, le côté... on fait comme si, et c'est ce qu'on a beaucoup vu ces dernières semaines, on fait comme si tout le monde fait semblant que c'est trop cool, et tout le monde fait semblant que ça va être un trop bien WrestleMania. Donc je pense que comme message final pour dimanche soir, voilà, le dernier match de tout ça, je pense qu'on va faire comme si, et on va foutre Drew McIntyre gagner, on va peut-être même mettre des pyros, ou je sais pas quoi, ou des trucs qui explosent. Bon, pas trop fort dans le full style, mais,
ah ouais, hein.
mais je pense qu'on va faire comme si, et qu'on va rester sur ce symbole-là d'une ère nouvelle qui s'ouvre, et donc je vois bien Drew finir... parce que sinon, comme tu l'as dit, WrestleMania, ça finit toujours, tout le temps. Ça, enfin, à ma connaissance, en tout cas, ça a toujours fini quand même sur un face qui célèbre. Que ce soit The Rock, que ce soit Roman Reigns, que ce soit John Cena, enfin, ces dernières années, voilà, c'est un face qui est parfois discuté, hein, Roman
ouais,
Reigns.
Ouais, ouais.
Mais disons que dans la kayfabe, c'était ça. Donc, moi, je vois Drew McIntyre, image finale de ce WrestleMania. Enfin, oui, non, t'as raison d'ailleurs. Enfin, il y a eu le fameux Reigns-Lesnar que Lesnar a gagné. Mais bon, là, il n'y avait plus trop ni de gentil ni de méchant. C'était vraiment un WrestleMania spécial. Jusqu'à l'été, là, il pourra nous en parler. Il était dans la salle.
Ouais, il peut témoigner.
Toi, tu vois Lesnar plutôt ?
Non. Moi, comme toi, moi, je vois Drew McIntyre. Alors moi, je suis, pour reprendre ce que tu disais sur le match de titre NXT, de ta tristesse du Rhea Ripley Charlotte Flair. Alors là, moi, pour le coup, là, c'est vraiment le match dans lequel moi je suis dans un océan de mélancolie, dans une infinie tristesse. Mmh. Pour moi, c'était le momentum du bel homme.
Ouais.
C'était son année, c'était son show. Ça devait être son match. Je suis vraiment, je ne m'en remets pas d'ailleurs. Quoi.
Ouais.
C'est vraiment, vraiment, moi, je suis mais tellement malheureux pour l'Écossais. Je trouve que bah voilà que voilà ça lui aura totalement tué tout son taf depuis un an et demi depuis son retour dans le main roster. Voilà, il n'est en aucun cas responsable de ce qui se passe, hein, tout ça c'est de la faute des officiels de la WWE qui s'est entêté à vouloir maintenir ce WrestleMania et qui n'a pas voulu le reporter. Moi j'ai toujours fait partie de la team reporter WrestleMania, je continue à en faire partie et je continue à être très en colère sur le maintien de ce show. Ouais. Et donc, bah, fatalement, ce Brock Lesnar versus Drew McIntyre me détruit le moral. Et vraiment, vraiment, j'ai vraiment de la peine pour Drew McIntyre. Quoi. Voilà, voir un Européen brandir le titre majeur bien haut face à la bête ultime de ces quasiment 20 dernières années, face au boss final, ça aurait été vraiment magnifique, quoi, avec 80 000 spectateurs, et je pense qu'on aurait mais kiffé, mais alors d'une puissance. Parce que je pense que quand même, globalement, l'IWC, les fans en général, sont quand même graves derrière Drew McIntyre. Je pense que ça faisait très longtemps qu'un challenger comme ça n'avait jamais autant fait l'unanimité derrière lui. J'irais presque remonter jusqu'à Daniel Bryan à WrestleMania 30 pour retrouver un mec avec qui est autant la hype du public derrière lui.
Bah, Becky Lynch, quoi, c'était l'an dernier.
Ouais, et Becky Lynch au niveau des femmes, quoi. Ouais. Mais au niveau masculin, pour moi, il faut vraiment remonter. Kofi Kingston, l'année dernière, avait une hype. Mais là, vraiment, Drew McIntyre a vraiment tellement fait une démonstration de force, a vraiment été tellement bon au Royal Rumble, et a été tellement bon par la suite dans les promos, dans ses cassages de mâchoires, dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait au fur et à mesure des semaines. Que c'est vraiment pour moi le grand moment, ça va être un grand brisqueur pour moi, quoi, ce match. Quoi. Donc voilà. Et ben voilà mon Raphaël, on est arrivé à la fin de cette incroyable et interminable carte de WrestleMania 36.
Ah ben, too big for one night, hein.
Eh ouais.
Non, mais ça va être intéressant, comment dire, pof, intéressant. Le choix de la carte va être spécial. Est-ce qu'ils vont faire un truc équilibré ou est-ce qu'ils vont faire un samedi un peu amuse-bouche pour nous envoyer plutôt les gros steaks, les gros matchs le dimanche? Je ne sais pas. On va voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. En tout cas, voilà, ça va être, c'est une première, c'est inédit. Donc nous aussi, on tâtonne. Il avait raison, John Cena. On tâtonne.
Eh ouais. Le Johnny Boy a toujours raison, te dirait Riscal, de toute façon. Ouais. Ah, voilà.
Bon, ben, on finit, hein, on a fini
bah,
là-dessus.
Ouais, on est arrivé au bout, hein.
Ben, n'hésitez pas, dans le peu de temps que vous aurez, visiblement, parce qu'entre la sortie de cette analyse et puis le WrestleMania du samedi, il ne va pas y avoir beaucoup de temps, mais donnez-nous vos avis, vos pronos, si vous êtes d'accord ou pas avec nous, si vous avez bien aimé ce dernier SmackDown avant le shutdown. Et puis, ben, voilà, nous, on va en rester là-dessus. Ben, voilà, super, on a tenu la baraque, hein. Merci Tonton Chris pour tout ce travail et pour cette lecture de cartes.
Ah bah merci à toi mon Raphaël.
Et puis bah écoutez, on va vous dire à tous un très bon week-end de WrestleMania, au mieux que possible. Hein, portez-vous bien, regardez ça en famille, prenez quand même des bières, faites au mieux, faites-vous un petit cocon de WrestleMania, on va faire au mieux, on va pas se laisser gâcher tout le plaisir. Hein.
Bah non, on va essayer, ouais, on va essayer quand même de rester un petit peu dans la positivité.
Voilà. Bon bah voilà, bah, merci à tous pour votre écoute.
Tu veux te prendre une clothesline par le boss, toi ?
Ah, j'allais faire la promo, non, j'allais, ouais.
Ah, j'ai eu peur, et j'ai cru que tu voulais rentrer en rivalité avec El Patron.
Ah, ça, je suis prêt à tout, surtout El Patron. Ça dépend de quel El Patron on parle. Si c'est celui qui a détruit la pauvre Paige, je lui défonce sa gueule. Si c'est celui qui nous fait nos vignettes et tout, non, ça va, il est gentil quand même.
Excellent.
Mais et ben donc oui, voilà, écoutez-nous, podcastez-nous, téléchargez-nous, audio, Spotify, iTunes, PodCloud, voilà tous les sites de podcast, YouTube pour la version audio bien sûr. Laissez-nous des j'aime, des pouces, des cœurs. Faites-nous partager à vos amis qui s'ennuient pas pendant ce confinement quand même, ils ont tout catch-up à écouter. Vous avez les contenus divers et variés. Tonton Chris bosse comme un dingue. Il nous fait les bastons du mercredi pour parler de la guerre entre AEW et NXT. Nous avons les You Talk Too Much. On a un super énorme épisode qui vient de sortir avec Story, un pilier dans le YouTube et dans le catch français. Et je crois qu'il y a d'autres épisodes qui arrivent avec d'autres légendes du business.
Exactement. On va garder la surprise, mais il y a 2-3 arrivées fortes sur YouTube, qui vont être là.
Il y a du beau monde, donc restez connectés, écoutez-nous, partagez, commentez, partageons notre passion du catch dans ces moments difficiles. Moi, je vous dis à tous, à très bientôt, et puis bon week-end de WrestleMania. Ciao tout le monde, ciao Chris.
Salut Raphaël, salut peuple de catch. Oh my god, je crois la review de SmackDown la plus longue ever.